France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Constance Debré. J'ai adoré lire Protocole, le côté radical du texte, l'écriture très sèche, sans gras. C'est un texte que j'ai trouvé très magnétique.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Est-ce qu'on peut écrire comme on tue, froidement ? Est-ce qu'on peut aimer, conduire, faire du sexe, manger des pizzas, prendre des extas en suivant simplement le protocole ? Et si on peut vendre son âme à une pancarte, alors combien ça rapporte ? Enfin et surtout, si tout le monde respecte une règle méthodiquement, à la fin, est-ce que ça veut dire que personne ne liquide personne ? Dans son dernier livre, Constance Debré roule sur des autoroutes américaines et cherche les signes pour comprendre le sort qu'on réserve au corps des condamnés à mort. Plusieurs hypothèses surnagent discrètement, comme les traces de sang pas encore séché du massacre à l'origine des États-Unis d'Amérique. En envisageant la peine de mort et la manière de l'administrer comme un symptôme, elle remonte, chapitre court en chapitre court, les étapes d'un grand plan mortifère. Le verbe « dire » est peut-être le mot le plus récurrent de ce livre sec. C'est considéré comme le langage a ici son importance. Constance Debré, notre invitée pour son dernier livre. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Constance Debré.
Bonjour.
Protocole, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Flammarion. Bienvenue donc à vous dans le Book Club. Il sera au cœur de notre conversation. Ce livre magnétique, comme disait notre auditrice, qu'on retrouvera aussi tout à l'heure. Mais ici, tout commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On fait connaissance avec nos invités un peu avant d'aller visiter leur bibliothèque, en se demandant quels livres ils ou elles ont rencontrés sur leur parcours. Et à vrai dire, en trouvant une mention des évangiles à la toute fin de votre texte, c'est comme si je l'attendais, tant la répétition de ce verbe « dire », sur lequel on reviendra, a appelé chez moi à la fois une forme de rapport à des vieux, très 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 anciens textes, et aussi au texte sacré, à la place du verbe, à la place de dire. Je me suis demandé si dans votre vie de lectrice, il y avait eu de la place pour ça. Pour les textes sacrés,
pour les évangiles et les textes sacrés, à la fois sans doute et finalement assez peu. Enfin, je veux dire, ils sont présents, je les ai entendus, je les ai. Est-ce que je les ai lus? Certains, mais peut-être que j'aime en tout cas cette langue ou cette effectivement dans son style, mais cette manière de dire les choses comme ça d'une façon très qu'on retrouve dans les textes anciens, pas forcément les textes religieux, mais je trouve qu'on ça trouve ça aussi. J'ai tombé sur un comme ça chez un vendeur de livres d'occasion, un vieux livre d'Hérodote.
Mais je pense à Homère aussi dans la
oui même, ouais. Homère ou même le roman de Roland. Cette manière de dire les choses comme ça, de les poser simplement dans les faits et avec tout ce que effectivement le sacré qu'on entend et quelque chose de très hiératique aussi que j'aime beaucoup, oui bien sûr.
Et puis il y a aussi l'idée du dire, quoi. Moi qui les ai très peu fréquentés, ces textes-là, mais j'ai l'impression que quand les choses sont dites, elles apparaissent. Voilà, il y a le verbe et puis il y a la lumière qui est tout de suite.
J'aime bien traiter les choses ou les voir en tout cas représentées aussi comme des faits seulement.
On y viendra à cette idée de la totalité des faits qui serait celle du monde. Mais si on essaye de parler un peu de votre vie de lectrice, ça ressemblerait à quoi ? Ça commence comment ? Est-ce qu'il y avait des livres où vous avez grandi ? Quoi comme livre ? Est-ce que vous y accédiez ?
Je me suis posé la question, je disais ah oui bon je vais faire le book club, il faudra que je parle de ça.
Et pas obligé,
j'ai repoussé, comme j'ai une part très paresseuse aussi en moi, c'est 40 ans de lecture. Mais je pense que ça a commencé par les BD, en fait. Enfant, avec mon père, il m'emmenait dans les librairies du cinquième, acheter des BD
à Paris donc.
À Paris et mais des choses très basiques et classiques, genre Tintin, Franquin, il y avait Blake et Mortimer, Philémon aussi qui était plus c'était déjà cette espèce de rapport au livre, cette manière d'être seule avec ces choses-là. Après, je pourrais dire que j'ai beaucoup fait de maquettes. Pour moi, c'est la même chose. Et ensuite, les premiers livres qui
pour vous c'est la même chose de faire des maquettes et de lire, c'était pareil.
Et d'écrire.
Ouais.
Plutôt.
Dans l'enfance.
Je pense que ce que je fais maintenant est pour moi est assez similaire à ce que je faisais enfant quand je faisais des Lego ou des maquettes. Mm-hmm. C'était assez exceptionnel de représenter et de refaire des choses.
D'ailleurs, il y a mention de Lego. Est-ce que c'est dans ce livre-là?
Ah, c'est possible.
Ou dans un précédent? Il y a une scène, j'ai une image de vous.
Ah, ça doit être dans un précédent.
Qui assemblait des Lego. Ouais.
Et sinon, en fait, j'ai lu, je dirais, relativement tard les vrais livres. Vers 14, 15 ans, vraiment. Et mes grands souvenirs, comme ça, c'est très banalement Dumas. Et puis ensuite, j'ai presque sans transition, ça a été Pascal, puis Proust et Lord Jim de Conrad qui m'ont, je pense, voilà, entre 14 et 16 ans, m'ont beaucoup frappé. Les livres, disons, les livres classiques du 19e qu'on étudiait au lycée, genre Maupassant, Balzac, Flaubert, m'ennuyaient considérablement. Je les ai relus après, certains que j'aime, certains que j'adore, ceux dont j'ai compris de quoi il s'agissait, mais le roman du 19e m'a toujours beaucoup ennuyé. Et j'ai trouvé, à la fois chez Pascal et chez Proust, je me souviens quelque chose de totalement évident. Qui ont tout à coup déclenché quelque chose. Et à partir de là, j'ai beaucoup lu.
Mais ce qui est marrant, c'est que dans un de vos précédents textes, vous proposiez qu'on s'en débarrasse, quoi, et de Proust et des autres et de tous les livres.
Oui, bien sûr, mais j'aime pas, dans mon souvenir, il y avait plusieurs choses sans doute dans ce passage-là, mais il y avait quelque chose de l'ordre de. Contre presque les bibliothèques, mm-hmm. je dirais. Les bibliothèques comme...
Instance bourgeoise, par excellence.
Oui, mais comme meuble, comme accumulation des livres, comme... espèce de savoir, mais ce que j'ai, en fait, je pense que les livres, pour moi, on n'a même pas besoin de les garder, on a besoin de les avoir. Encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un livre ou qu'une écriture? Ce sont des signes. C'est pas matériel, en réalité. Donc, ce sont des signes, espèce de, voilà, toutes ces lettres qu'on assemble et qui forment des mots et qui forment du langage et on les lit et ça vous traverse. C'est pas la peine de les garder, d'une certaine manière. Bien sûr que maintenant je les garde. J'ai un vague pied-à-terre, j'en ai quelques-uns et que j'aime les avoir pour retrouver un tel ou tel passage et, mais c'est pas on n'a pas forcément, je crois qu'il y a une sorte de glissement, c'est aussi peut-être le côté même de la société matérialiste dans laquelle on vit, de ce qu'il y a à l'intérieur d'un livre à croire que pour le saisir il faut posséder la chose qui la contient.
Mais peut-être que celles et ceux qui peuvent se permettre de se débarrasser des livres ou de se dire que ce qui la contient peut disparaître l'ont très fort en eux. Peut-être que vous vous dites ça, Constance Debré, parce que d'une certaine manière, ça s'est déposé en vous, littérature.
Bien sûr, je vais pas vous dire que les livres et que la littérature n'a pas d'importance pour moi. Et je pense pas qu'il y ait un écrivain qui puisse, qui n'est pas, soit pas d'abord un grand lecteur. Mmh. Donc, bien sûr que je fais partie de, je viens de là. Mais ça suffit pas. On peut avoir les gens qui ont lu peuvent être aussi. C'est une de mes théories. J'ai plein de petites théories comme ça dans mes poches. Et une de mes théories, c'est que le degré d'intelligence ou le degré de sensibilité ou le degré de finesse des êtres est exactement le même dans n'importe quel groupe humain. Prenez un wagon de n'importe quelle ligne de bus. N'importe où au monde, prenez une classe de, une classe de normal sup et un wagon n'importe où, ça sera à peu près la même chose.
En tout cas, que ça ne conditionne en rien, que la lecture ne conditionne en rien, ni le niveau d'intelligence, ni le niveau de présence au monde, ni la sensibilité, la capacité de sentir.
Non, et que par ailleurs, pour écrire, je pense qu'à un moment, il faut se débarrasser. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, dans l'existence, il y a un mouvement il faut s'approprier le monde, il faut s'approprier sans doute ce qu'on peut appeler l'héritage, ou s'approprier ce qu'il y a à s'approprier, et aussi s'en débarrasser. Pour s'alléger, pour se libérer, pour arriver à quelque chose d'un peu singulier, qui est jamais unique, qui est jamais détaché du groupe, de l'humanité, ou par exemple d'un livre est toujours issu des autres livres. Mais c'est à la fois, je pense, une sorte de continuité, une sorte d'absorption, et aussi un dégagement, et aussi c'est aussi contre. C'est à partir d'eux, c'est aussi contre, je crois.
Et vous diriez par exemple que vous écrivez contre quoi, d'un point de vue littéraire ?
D'un point de vue littéraire ? Oh, contre plein de choses, certainement.
Sciemment.
Alors, je sais pas, je suis pas tellement dans le. C'est pas exactement ce qui m'occupe, mais par exemple, je suis lasse, personnellement, justement, de la narration. Alors, peut-être que j'en suis par ailleurs incapable, ça c'est peut-être les deux à la fois, mais je suis assez lasse du roman classique qui me paraît avoir été posé, disons, en gros, par Flaubert. Enfin, le roman du 19e. Voilà. Le roman à histoire et à personnage, caricaturé, et il déborde du 19e, bien sûr. Et il y a de très grands exemples, c'est pas la question. À une époque donnée, ça a été un modèle formidable. Je pense que les trois quarts des livres que moi j'aime sont des romans comme ça. Mais aujourd'hui, ça me paraît un peu ennuyeux. Moi-même, je sais que j'ai du mal à entrer dans ce genre de livres, souvent, en tout cas contemporains. Et c'est pas du tout ce qui m'excite. Sans que je veuille faire, en tout cas maintenant, je l'ai peut-être un peu fait dans les trois premiers, strictement du vivre à la première, ce que j'appelle du vivre à la première personne. Donc voilà, je sais pas si j'écris contre ça, mais un peu quand même.
On vous a quitté vers 18 ans à peu près dans votre vie de lectrice. Aussi, on vous retrouve un petit peu plus tard avec une étape ou plusieurs étapes qui seraient marquantes pour vous, Constance Debray, constitutives de votre vie de lectrice. Des choses qui
beaucoup
vraiment
plus tard,
ouais, ou qui constitueraient vraiment un virage.
Mais, des virages, ça, j'en sais rien. C'est très difficile. Je sais que en réalité, très souvent, je lis beaucoup moins depuis que j'écris. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Ou je ne lis pas de la même manière. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que c'est-à-dire que, sauf le bref moment où j'ai terminé un livre, c'est-à-dire à peu près un mois tous les deux ans, où je me dis, ah ben là, c'est les vacances, je vais pouvoir lire de façon désintéressée. Et à ce moment-là, mais ça dure jamais très longtemps. Sinon, je lis de façon intéressée. C'est-à-dire que je cherche des livres qui vont nourrir l'intuition que j'ai, ou que je suis en train de construire, du livre en cours. Voilà. Mais je m'aperçois, parfois je me dis, oh bah, bon, voilà, donc c'est pour le travail. Mais en fait, je m'aperçois d'une chose, je sais pas si c'est que ma pensée est très claire, mais que il se passe pas un an, mais il se passe pas six mois sans que j'ai un grand enthousiasme de lecture en me disant, ah, ça c'est incroyable,
trop bien.
Pas. Mais ça peut, je sais, qu'est-ce que c'était je sais pas, quand il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai lu Les Démons, j'avais jamais lu Les Démons de Dostoïevski, je trouve ça extraordinaire.
Enthousiasme.
Encore mieux que Karamazov, voilà. Mais, je sais pas, j'ai essayé de noter qu'est-ce que ça pue. Ben j'ai pas Claude Simon que j'ai lu il y a pas longtemps, je trouvais ça formidable. Mais c'est ouais, je sais pas, j'en ai tout le temps des moments qui paraissent tout changer et qui changent sans doute.
Et qui changent sans doute quelque chose ou pas du tout du coup. Rapport à ce que fait la littérature, puisqu'on va parler de ce que ça fait les mots, de ce que ça fait de dire le monde.
J'en sais rien. Ce que je trouve très agréable en grandissant, si j'ose dire, c'est que c'est comme quand on apprend à connaître une ville. C'est-à-dire qu'on découvre toujours des choses, mais en même temps, on est plus familier de l'espace, on se situe mieux dans la géographie. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est très agréable quand on grandit en tant que lecteur. Et j'aime beaucoup aussi le lecteur aussi que je suis devenue en écrivant, c'est-à-dire je vais chercher des choses. Et voilà, il est 3h du matin, et là je me dis, ah ben voilà, le prochain livre, ça, c'est oui, tiens, je vais reprendre cette idée que j'ai depuis longtemps, il faut que j'aille chercher quelque chose par là-bas, et tout d'un coup je me dis... Ah, mais il faudrait que je lise ce livre auquel je pense depuis longtemps, de Debord, et je, voilà, je commence
et
à chercher ça.
Et vous l'avez souvent ou pas?
Bah, il va arriver par la poste.
Oui. Il va arriver par la poste.
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez sorti de votre bibliothèque ou qu'est-ce que vous avez commandé chez un libraire quand vous aviez l'intuition de Protocole?
Oh, je pense que je me dis, pas mal de choses, puis ça a dû varier, mais je pense que je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui serait, j'allais dire entre, mais c'est pas vraiment au milieu, c'est mais entre Kafka et Dennis Cooper. Voilà, avec un peu de Dante, de Dostoïevski. Il doit y avoir d'autres choses, mais je sais pas. Oui, c'est ce genre de choses qui m'ont sans doute occupée ou permis aussi de le faire. Mm-hmm. C'est quand même très bizarre, cette activité.
Peut-être on peut parler de la langue ou des livres de Dennis Cooper, dont on parle moins souvent que tous les autres dont vous avez parlé Constance Debray. En quoi est-ce que ça vous a ouvert ou permis quelque chose, ces textes de Dennis Cooper?
Je pense que les livres qui m'intéressent, alors je vais parler plus précisément de Dennis Cooper, mais les livres qui m'intéressent sont les livres qui se posent la question de la littérature, telle que moi je me la pose. Une des questions de la littérature, c'est la question de ses limites. Et de fond et de forme, donc de ce qu'on peut dire et de la façon dont on peut la dire. Et que par, alors, Dennis Cooper est un écrivain américain, contemporain, qui vient de Los Angeles, mais je crois qu'il vit surtout à Paris maintenant. Il écrit en anglais. Il a écrit des textes, des livres. D'abord, dont les titres sont absolument extraordinaires. C'est souvent un mot. Et beaucoup de sexe.
Un peu de violence. De violence. Un peu de drogue.
C'est pas vraiment, voilà, pour le coup, on n'est pas dans le roman classique de l'histoire à personnage. Il essaye toujours, il cherche des formes, il cherche des formes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas d'explication à ces textes. C'est l'anti-roman psychologique. Je crois qu'il a été très nourri et puis là, il en a fait sa propre, enfin, il en a fait, il ne refait pas ça, mais il était très nourri du nouveau roman français. Il cherche quelque chose d'objectif, je crois. Et c'est quelque chose que je partage, je crois. Une sorte d'écriture, poser des choses, sans les expliquer et sans qu'on, nécessairement demande, sans que celui qui les écrit ait à devoir s'expliquer sur ce qu'il pense sur ces choses-là. Oui, il y a quelque chose de très extrême chez Dennis Cooper, de la même manière qu'il y a quelque chose de très extrême, évidemment, chez Kafka. C'est pas avec la même matière, mais finalement, la matière utilisée pour moi est anecdotique ou une sorte de prétexte. Et elle dit autre chose du monde. Et je toujours trouvais que chez les auteurs qui sont paraissent les plus froids et les plus extrêmes, apparaissait en creux une immense tendresse en réalité pour le monde, sans laquelle il n'y aurait pas de littérature, ou en tout cas moi je peux pas aimer un je pense de livre ou d'écrivain qui ne soit pas très tendre sans me dire.
Et un petit autoportrait au passage. La chanson qu'on va écouter est une chanson composée par le groupe Moriarty. Moriarty, c'est un écho poétique à l'histoire de Sean Sellers, exécuté en février 1999, à l'âge de 28 ans, pour un triple meurtre commis alors qu'il n'avait que 16 ans. Il a été condamné comme un adulte et Sellers devient alors le plus jeune condamné à mort des 50 dernières années aux États-Unis. Moriarty lui dédie entre guillemets cette chanson « How many times ?»
In the dark myself. I have learned to be friends with myself. Day after day, my whole life in one day. See what's beyond.
Club, Marie Richeux.
Je ne qualifierais pas ce qu'il vient de se passer comme un problème. Voilà ce qu'ils disent, ce grand « il » collectif au pluriel, cette succession de personnes et d'actions, jamais proprement médicales, chargées d'administrer la mort à celles et ceux qui y sont condamnés. Ce que ce grand « il » ne trouve pas problématique, cela peut être 5 jours d'agonie, ou plusieurs échecs de pose de cathéter, ou une première décharge qui ne fonctionne pas, ou la sensation de mourir d'une lente crise cardiaque ou d'une asphyxie interne doublée d'une noyade. Bref, ce que ce grand « il » ne trouve pas problématique touche à l'horreur. Sauf que dans votre dernier livre, Constance Debré, la question de l'horreur, ou plutôt celle du bien et du mal, est tenue à distance. On est au-delà ou en deçà. Ici, on respecte la loi. Cette loi qui, je vous cite, rend toute littérature obsolète. Protocole, c'est le titre de ce livre paru aux éditions Flammarion. Et on en parle avec vous, Constance Debré, puisqu'on parlait de lecture pour ouvrir cette émission, comme d'habitude. Finalement, vous commencez par parler de vous du point de vue de la lecture, puisque vous dites pendant tout un temps, ce temps passé dans cette ville américaine jamais citée, je ne faisais que lire des protocoles d'exécution. Ça ressemble à quoi, lire cette chose-là? Ça fait quoi comme genre d'heure de lecture?
Non, mais d'abord, c'est pas moi. C'est le jeu du livre. Donc, je suis comme tout le monde, je mens. Donc, bien sûr que j'ai lu autre chose pendant toute cette période. Sinon, pour ce qui est de la lecture de ces protocoles d'exécution, c'est très intéressant. J'en ai mis quelques-uns dans ces. Ce sont des modes d'emploi pour tuer un être humain. Bon, que ce soit horrible est évident, et c'est pour moi même pas la question, peut-être. C'est une des questions, oui, mais c'est peut-être plein d'autres choses qu'on a du mal à saisir, qui font que c'est que j'ai eu envie de les utiliser. C'est c'est aussi c'est pour ça que j'aime évidemment la littérature, c'est qu'il y a toujours une lecture littérale des choses et elle compte. Moi, j'aime le rapport littéral au monde, d'abord. J'aime voir, quand je suis dans une ville, j'aime voir à quoi ressemblent les trottoirs et les immeubles les uns après les autres. Quand je suis... j'aime la littéralité de l'existence. J'aime tout ce qu'il y a de banal et de logistique. Mais,
ce livre parle de ça aussi.
Oui, bien sûr. Et j'aime bien écrire comme ça. J'aime bien, une des raisons pour lesquelles je me tiens, c'est souvent une écriture très factuelle, parce que j'aime le monde. Voilà, l'incarnation et ce qu'on peut saisir du monde dans ses faits, dans sa matérialité, je l'aime aussi. Mais il y a aussi quelque chose de plus... Il y a un autre niveau de lecture, je crois, dans n'importe quel texte, ou même dans notre regard sur le monde, ou dans notre lecture du monde et des livres, ou des textes, comme ceux des protocoles. Et je pense que quand j'ai commencé à... D'abord à les recueillir parce qu'il y en a nombreux, il y en a autant qu'il y a d'États. Tiens, la moitié des États américains ont la peine de mort, donc il y a des protocoles dans tous les États. Et puis il y a des protocoles qui ont été abolis et donc il y a des strates plus anciennes de protocoles. Donc il y a beaucoup de choses. Et lisant ces protocoles, bien sûr que je voyais autre chose. Je voyais aussi notre nous plonger dans le monde et dans l'existence, nous plonger dans le monde de la violence, mais nous plonger dans cette existence et dans la perspective de notre mort, dans tout ce qui, dans cette mort à venir, mais dans tout ce qui meurt et tout ce qui est au bord de la catastrophe et au bord de défaillir et de nous engloutir et qui engloutit les uns et les autres autour de nous. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on peut lire aussi, il me semble, dans un protocole d'exécution. Et aussi quelque chose de, je dirais, de très ancien et de consubstantiel à notre présence sur Terre et qui n'est pas sans lien avec la raison pour laquelle on écrit et on lit. Et quelque chose aussi, évidemment, de très contemporain.
Vous voulez dire la mort? La mort, c'est pas sans lien avec la raison pour laquelle on vit.
Ce sentiment d'être tout d'un coup plongé les uns à côté des autres, ensemble, mais malgré tout séparés, dans cette chose qu'on ne comprend pas très bien, quelle existence et ce monde qu'il faut faire et qu'on fait comme on peut ou dans lequel on vit comme on peut, mais sans toujours tout comprendre. Et qui ne cesse de mourir et qui va bien nous faire mourir à la fin, oui. Et la terreur pure de la mort, je crois qu'elle est là aussi dans ce livre.
Dès la première phrase, vous avez été condamné à mort est une phrase qui inaugure votre texte, Constance Debré, et qui vous attrape, nous attrape, attrape votre voix de narration dès le départ comme pas nous, en dehors de cette condamnation à mort.
Oui, bien sûr. Et quand je parlais de l'incarnation et de la matérialité et de la littéralité, quand j'ai trouvé les descriptions d'autopsie, dans les descriptions de ces exécutions, je voulais voir moi et approcher au plus près cette terreur de la mort d'arriver à, encore une fois, être au plus près de ce qu'elle faisait vraiment au corps. La mort, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui va nous arriver dans cette chose qui nous tient, toute notre existence qui est notre corps, comment ça va se passer dans le corps? Je crois que je voulais aussi l'approcher à ce niveau matériel.
On écoute un premier extrait de protocole.
Quatre carabines étaient chargées de balles réelles, et une carabine était chargée à blanc, mais on ne savait pas laquelle. On ne voyait pas les tireurs. Ils étaient derrière le mur. Il y avait un trou pour les canons des carabines. C'était des Winchester 30-30. Le mur était à environ 7 mètres. Il y a eu un compte à rebours de 5. Ils ont tiré. L'homme a serré le poing gauche et son bras gauche a convulsé, montant et descendant deux fois. Il a continué à frotter son pouce contre ses doigts. La cible a été trouée et a commencé à s'assombrir. 2 minutes après le tir, le médecin est entré dans la salle d'exécution et a levé la cagoule. Le visage de l'homme était gris. Sa tête avait glissé en arrière. Le directeur a déclaré la mort. Hémorragie, rupture du cœur ou des artères, déchirure des poumons. L'homme perd conscience en raison du choc. Si les tireurs ratent le cœur, l'homme meurt lentement d'hémorragie. Dans la plupart des cas, le protocole autorise une deuxième salve, mais il rate rarement le cœur. Selon les spécialistes, l'exécution par balle est le seul mode d'exécution qui ne rate jamais. Selon un juge à la Cour suprême, le peloton d'exécution est le mode d'exécution le plus fiable et présente l'avantage d'être relativement rapide et sans douleur. Il est peu utilisé.
Dans ce texte, Constance Debré, vous écrivez à un moment donné « Je cherche des signes pour comprendre ». Et en réalité, j'ai l'impression qu'une partie de votre compréhension, elle passe par le systématisme de la description, de la reprise de la description, de dire comment on tue, en fait. Que, comme s'il y avait une compréhension qui pouvait venir du comment. Pas tant du pourquoi.
Oui, je crois pas tellement aux causes. En tout cas, je préfère les conséquences. D'une façon générale, causes. Je pense que D'abord, je vois pas très bien. Enfin, je sais pas très bien jusqu'où elles sont vraies ou pas les causes. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte encore une fois pour moi, ce sont les faits. Donc les conséquences des causes éventuelles. Et que dans mon travail d'écrivain, oui, je préfère poser le réel. Bah, c'est quand même c'est de ça qu'il s'agit, je crois. C'est un travail de représentation et que, très curieusement, je crois qu'on attrape quelque chose dans la représentation. On attrape quelque chose qui n'est pas nommé dans le texte lui-même. En tout cas, c'est comme ça que moi je lis. Je crois pas que ce que nous apprennent les livres soit dit explicitement dans les livres, en réalité. C'est quelque chose qu'on sent entre les phrases, voilà, quelque chose qui n'est pas dit.
Qu'est-ce qu'on réussit à attraper alors et qu'on n'écrit pas quand on décrit comment un peloton d'exécution tire sur le cœur? Mais comment du liquide létal est injecté? On attrape quelque chose, manifestement, votre texte, en effet, il attrape quelque chose, et c'est quoi? Si c'est un au-delà de ce comment on tue aux États-Unis.
Alors, c'est juste, ça n'a rien à voir, mais je voudrais juste rappeler, je me souviens de cette phrase de Huysmans que je trouve parfaite, l'au-delà du mal ne s'atteint pas, que j'aime beaucoup dans là-bas. Voilà. Non, je crois pas que, est-ce que je cherche une explication ou un sens? Pas forcément, en tout cas, un sens aux circonstances ou aux événements. Pas nécessairement. Je crois pas que ce soit ce que moi je cherche quand j'écris ou quand je lis ou dans la vie en général. Mais en revanche, une manière d'habiter le monde un peu plus qui paraisse avoir un sens. Et il me semble que quand c'est ce que permet la littérature, qu'en représentant le monde et en nous faisant sentir à la fois son horreur et sa beauté, et nous dedans, et encore une fois un peu jetés dedans, mais nous partageant cette position d'être dans ce monde, à la fois cette position tragique en quelque sorte, d'être jeté dans un monde à la fois horrible et grand, parce que c'est notre dimension et que ça nous fait participer à ce qui me paraît être quand même une grande, il n'y en a pas d'autre, mais une très grande expérience de cette histoire de l'humanité, chacun à notre niveau. oui, pour moi, ça remplit la, ça ré, je sais pas si ça, ça répond à la question du sens, mais en tout cas, ou si ça la remplace, mais de participer à cette chose-là, voilà.
Parfois, pour essayer d'organiser justement cette espèce de drôle d'expérience qui serait le monde, le réel, nos vies, Constance Debré, on rédige des lois, on rédige des textes et on se dit qu'en suivant ces lois et en suivant ces textes, il y a quelque chose de la communauté des vivants qui va s'organiser. Or, vous montrez dans Protocole que suivre les lois et les suivre à la lettre et être légal peut mener à l'horreur absolue. On a l'impression que vous démontrez que ces gens-là, par exemple, ceux qui vont accompagner les condamnés à mort, vous dites tout est normal, tout est ici tout est légal. On n'a fait que suivre les lois.
Oui, mais bon, moi je ne dénonce pas les lois. Je dis pas que le droit est injuste par principe. Il est comme le reste, quoi. Le droit, il essaye de faire plutôt le bien et parfois il se plante et puis parfois il est utilisé à des fins plutôt mauvaise. Je crois que d'une façon générale, j'y suis quand même favorable. Je dis juste ça parce que je lis les journaux et comme tout le monde et qu'on voit quand même que les pays qui sont hors de l'état de droit ou qui en sortent, et c'est quand même ce qui se passe aux États-Unis, on est dans une sorte de glissement, bah c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc la loi n'est pas toujours bonne, mais elle est mieux que l'absence de loi. Mm-hmm. Voilà, rien. La loi, c'est quoi ? À part les tables qui tombent du ciel, c'est quand même assez. C'est pas arrivé depuis longtemps. Ce sont des textes qui sont faits par des hommes. Donc je vois pas pourquoi ce serait ni pire ni mieux que le reste. Mais il y a quelque chose de très proche entre la loi et les livres.
Mmh. Souvent d'ailleurs, ils se rejoignent quand même.
Bah oui, ça se ressemble quand même beaucoup par plein d'aspects. Mais je crois qu'il y a chez tout écrivain, et peut-être que, enfin, en tout cas chez moi, ça me paraît assez évident, une sorte de fantasme de tenir la complexité angoissante et terrifiante du monde entre deux pages, mm-hmm. ou entre deux pages d'un roman ou d'un code. Et je crois que la loi est à la fois, enfin le droit est à la fois, il y a ce processus de représentation du réel, il faut bien qualifier ce qui se passe, mm-hmm. qu'on va donner un mot au phénomène.
Et ça le tient en même temps.
Ça le tient, c'est quelque chose de très rassurant, et puis après on va essayer de l'ordonner par un retour vers le réel que peut-être le roman a à moi, mais ce sont des mouvements et des procédés assez proches, je crois.
On va écouter la voix de Anne-Lise, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre Protocole et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Constance Debré. J'ai adoré lire Protocole. C'est un texte que j'ai trouvé très magnétique. Et malgré tout, à la lecture, malgré les protocoles qui entourent les exécutions ou ceux qui régissent la vie de la narratrice, l'émotion jaillit. J'ai été très en colère, très rageuse, ce sentiment d'injustice qu'on comprend, qui est révélé dans Protocole. Alors je me suis demandé à quel point le protocole était voué à l'échec, si même lui n'empêchait pas ce désir de vivre ou cette pulsion de vie. Et quel rôle lui reste-t-il en fin de compte? Et peut-être dans la continuité, qu'y a-t-il après le protocole? Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci Anne-Lise. Est-ce qu'il y a un au-delà du protocole? Je commençais l'émission Constance Debré en se demandant, est-ce que vraiment on peut écrire, entre guillemets, froidement? J'ai l'impression que votre livre, il se demande aussi, est-ce qu'on peut aimer en suivant juste le protocole? Est-ce qu'on peut faire du sexe en suivant juste le protocole?
C'est rien.
Est-ce qu'on peut traverser une ville en suivant juste un protocole? On a l'impression qu'il y a aussi une sorte de mise à l'épreuve du reste de la vie de la narratrice. Elle
non,
dit ça, Anne-Lise?
Je crois pas. Enfin, moi, si pour ce qui est du livre, je crois qu'il y a juste un moment où la narratrice, enfin, parle de protocole et c'est quand je mets en scène des histoires de piscine pour changer. Mais en dehors de ça, je crois pas qu'il y ait aucun moment montrer que les personnages ou celui qui parle, enfin celle qui parle à la première personne ou les autres suivent vraiment des protocoles. Enfin, je crois pas que ce soit tellement présent. Non, je crois qu'on est tous, qu'on soit tous à la recherche d'un peu d'ordre et de règles pour gouverner nos vies. Ça me paraît évident. Il faut bien, parce que sinon vraiment ce serait très 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 long une journée.
Anise, elle dit que malgré tous ces protocoles, l'émotion affleure.
Bah oui, je vois pas pourquoi ce serait contradictoire. Et bien sûr, oui. Mais par ailleurs, pour ce qui est de mon écriture et de la froideur, et tout ça, etc. C'est ce que je vous disais au début. Moi, j'aime beaucoup les textes objectifs et
qui... Pour vous, c'est pas froid.
Non. La façon dont les choses sont décrites ne sont. Je sais pas si elles sont froides, mais en tout cas. Il n'est pas question de sentiments dans l'écriture, puisque je ne fais que je vois pas comment une description pourrait être. Je mets pas beaucoup de qualificatifs, si vous voulez. Ça c'est sûr. mais parce que ça me paraîtrait. C'est pas ce que j'aime d'ailleurs, et j'aime laisser au lecteur le soin d'éprouver les sentiments. Quoi.
Ouais. Mais c'est ce que dit Anise d'ailleurs.
Ouais.
Elle dit que dans une écriture qu'elle qualifie de protocolaire, on peut dire sans effusion, enfin on se débrouille, je sais pas comment. Mais voilà, comme vous dites, avec pas beaucoup d'objectifs, on va dire ça. Elle, il y a de la place pour le sentiment.
Bah oui, mais c'est parce que je crois que derrière tout ça, d'abord il y a un goût. Moi, il y a mon goût pour les choses comme ça, assez sobres, que je peux retrouver, enfin qui est satisfait, disons, par exemple tout le français classique du 17e. Moi, j'adore cette langue. Mais il y a aussi derrière ça ce qui me paraît finalement peut-être. Bon, je disais que je m'intéressais pas aux causes, mais bien sûr, je me contredis. Enfin, qui explique, parce que c'est quand même un mystère. Pourquoi est-ce qu'on aime les livres? C'est quoi ce truc de la littérature quand même qui perdure, qui est dans toutes les civilisations à peu près? Et il me semble que c'est le présupposé qui est bien, qui a l'air d'être juste, puisque ça marche quand même pas mal, c'est que on a tous quelque chose en commun, ce que j'appelle, je sais pas comment on peut le nommer, mais enfin disons l'humanité, et que malgré nos expériences différentes, les pays dans lesquels on vit ou dans lesquels on est vécu, les époques, etc., on peut comprendre. Quand on lit Homère et les passages de l'Iliade, on a envie de pleurer. Bon, il me semble pas qu'on ait la même vie que pendant la guerre de Troie, oui, pas vraiment. Donc c'est bien qu'on partage quelque chose. Et donc il me semble qu'en posant comme ça le monde, mais
de manière la plus sobre possible, là, du coup on va atteindre à ce qu'il
faut. Mais bon, il faut essayer de trouver ce qu'il faut poser pour que ça marche. Tout d'un coup, on va éprouver ce sentiment de ce que c'est qu'être humain. Voilà,
en allant au plus pur, finalement, pour reprendre la citation que vous placez en exact de ce livre, qui est là aussi un saint. Je disais qu'on terminait avec.
J'aime beaucoup les saints. Ouais.
Avec Matthieu, et en fait, on ouvre avec Paul. Au pur, tout est pur. Ouais. Et finalement, peut-être que c'est ça qui convient mieux à votre recherche littéraire, Constance Debré.
Au lieu de
parler de froideur, de caractère objectif.
C'est gentil, ça.
Ça se trouve, il y a quelque chose de la. Même au lieu de parler de sobriété, peut-être que c'est une recherche de pureté.
J'aime bien ça, mais c'est toujours un peu dangereux, la pureté.
Ça, c'est clair.
Ouais. Non, par ailleurs, heureusement que le. Mais je pense que le roman est un genre particulièrement impur, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est qu'il est. Il n'y a pas de forme, il est entre l'histoire et c'est pas l'histoire qui compte, mais il faut bien qu'il y en ait un peu. Moi, je serais incapable, aucune envie d'écrire de la poésie ou de la philosophie. J'aime cette chose à la fois. Et en même temps, il y a Wittgenstein. De sentiments, de...
Et en même temps, il y a Wittgenstein qui arrive. Et clairement, il y a quand même une rythmique poétique à votre écriture. Donc en fait, et la philosophie et la poésie sont dans votre livre.
Oui, j'aime bien. Oui, bien sûr. Mais voilà, j'aime bien le mélange des genres, qui c'est entre, encore une fois, entre la matière et les idées. C'est il y a plusieurs niveaux de lecture. Et puis par ailleurs, pour qu'un livre soit, qu'il existe, pour qu'il soit vivant. Et puis de toute façon, moi j'arriverai pas à faire autrement. On peut pas, un livre ne ressemble jamais justement au code civil de 1804. Voilà.
Est-ce qu'une partie de l'impureté de ce texte de protocole vient de la du désir et de l'histoire d'amour qui est décrite?
Ah non, je crois pas. Je crois pas que ce soit vraiment une histoire d'amour qui soit décrite. C'est-à-dire qu'il y a...
Vous avez vu que j'ai été sur la pointe des pieds, hein. J'ai commencé par plaisir.
Non, mais c'est la première fois qu'on me pose la question.
Bah, c'est quand même la moitié du bouquin.
Comment?
C'est quand même la moitié du bouquin.
Ah, je crois pas, non.
Ah, ok, d'accord, j'ai mal compté. C'est très existant.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a la moitié du livre est constituée, il me semble, de passages écrits plus ou moins la première personne ou de descriptions de ces lieux qui sont en partie, qui sont généralement américains et en grande partie inspirés, mais pas nommés, parce que pour moi, encore une fois, je veux plus utiliser l'image que la réalité de la chose, mais qui sont inspirés beaucoup de la Californie, en particulier de Los Angeles. Et parmi ces, il y a des lieux, je crois, en tant que tels, c'est quand même une grande part de cette moitié-là. Et puis, il y a des gens, parce que voilà, c'est ça le monde, c'est des lieux et des gens. Hein. Et les gens, il y a un personnage qui parle, un personnage, une figure, je ne sais pas comment on l'appelle, qui parle à la première personne. On peut dire que c'est moi, si vous voulez. Un double de moi, mais peu importe, puisque c'est pas le sujet. Et puis, je crois que les autres personnages, ou les autres individus qui traversent le livre ont pas plus tellement d'existence que le jeu et que les relations entre ces personnages, c'est assez pareil, il se passe des choses, bon, mais c'est pas tellement qualifié, c'est pas tellement, encore une fois, on retient que les gestes. Je crois pas qu'on soit tellement dans l'exploration des relations ni...
Non, d'ailleurs, un des derniers mots, c'est la surface.
Oui, voilà.
On reste à la surface, quoi.
Oui, ben voilà, tout est... Parce que ça me semble, d'une certaine manière, aussi... je vais pas commencer à expliquer mon propre texte, mais c'est aussi le sentiment qu'on a, c'est la seule chose certaine, c'est la surface des choses.
Ça, c'est sûr. C'est observable, au moins.
Ben, ça, c'est sûr. Et le reste, on n'en est pas très sûr, quand même, de ce qui se passe, des liens entre les événements, nos propres sentiments, qui sont, somme toute, que des impulsions électriques dans le cerveau.
Ouais, le reste est objectivable, on peut dire.
Voilà. Moi, je m'en tiens aux faits. Comme les bons journalistes, non?
Wow. Moi, je ne suis pas journaliste, donc ça va.
Non, je sais, je ne parle pas pour... Je parle pour vous, pour bon, mais pas aux journalistes. Alors, je sais pas.
On va écouter un extrait d'un film consacré à la peine de mort aux États-Unis, signé David André. Il a eu le prix Albert Londres en 2011, il est sorti en 2010, et il s'intéresse ici spécifiquement à la figure du gardien.
8 ou 9 minutes avant l'exécution, on le sort de sa cellule et on le conduit dans la chambre d'exécution avec une équipe de 6 gardiens.
Quand ils sortent de la cellule, ils ont tous cette expression typique sur le visage, comme s'ils avaient du mal à croire que c'est toi qui les connais depuis 20 ans, qui va les conduire à la chambre.
Il n'a pas de menottes, il n'a pas de fer aux pieds, il y va comme un homme.
Ils aimeraient bien que ce soit quelqu'un d'autre, toi t'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre. Mais tu les accompagnes jusqu'à la table. Et eux, ils te regardent parce qu'ils ne savent pas quoi faire.
On ressent le stress, la nervosité. Un jour, il y en a un qui a craqué en entrant dans la chambre d'exécution. Il ne tenait plus debout. L'équipe l'a retenu par le bras et l'a redressé. On l'a porté jusqu'à la table.
Ils attendent que tu leur dises quoi faire. Toi, tu leur dis, « Monsieur, veuillez vous allonger. » Et il te regarde l'air de dire, « Dirk, pourquoi tu m'appelles monsieur? T'as pas besoin de faire ça. » Et puis, une fois sur la table, il te demande, « Je fais quoi ?» Toi, tu réponds, « Veuillez écarter les mains et les bras. » Ils te disent, « Pourquoi faire ?» Et toi, tu peux rien leur dire. T'as pas le droit de répondre. Tu dois juste faire ce que t'as à faire. Et une fois qu'ils sont attachés, ils te regardent comme s'ils voulaient te dire au revoir. Mais moi, je peux pas les regarder dans les yeux. Je sors de la pièce. Je peux pas.
La voix des gardiens, qui ont cette position si particulière dans ce qu'on appelle le couloir de la mort aux États-Unis, Constance Debray, c'est d'être les personnes les plus proches des condamnés, et celles qui vont être obligées d'être proches d'eux aussi jusqu'à la mort. Tout à l'heure, vous avez dit finalement, c'est très incertain ce qu'il y a derrière le regard, en dessous le regard, au-delà du regard. Et là, on entend l'impossible regard, quoi, entre ces deux humains-là. Et c'est comme si vous, quand même, avec protocole, vous regardiez qui fait quel geste, qui est capable de regarder quoi. Moi, je sais que, par exemple, le premier truc que j'ai fait en refermant ça, c'était de me mettre les mains devant les yeux, en fermant votre livre. Ouais.
Oui, mais justement, je sais pas. Moi, mais en écoutant ce que vous venez de diffuser, tout ça, qu'est-ce qu'il y a à ajouter, vous voyez ? Et il me semblait qu'il fallait par dernier moment de pitié, de compassion, de fraternité entre nous, frères humains, quoi. Représenter ça, représenter la mort de ces types-là, représenter ces... Et que ce soit dit et les mettre devant les yeux de ceux qui voudraient bien lire mon livre. Il y a ça aussi, il y a bien sûr ce qui leur est fait, donc le geste de les tuer, mais il y a aussi leur mort, tout simplement. Cette chose qu'on veut pas voir, et il me semble qu'on est tous plus grands quand on peut la voir, en fait, quand on peut voir la part la plus dure du monde et de nous-mêmes et de notre terreur, quoi.
Ça part de cette image manquante, l'écriture de votre livre, du fait qu'il n'existe pas d'image produite de ces morts-là.
Pas comme ça, je dirais. Je dirais que pour moi, oui, toute écriture part de l'image manquante. Je pense d'une certaine manière que la matière que je veux toujours utiliser. Après, bien sûr, il y a des questions de, on en a parlé de goût formel. Et l'idée de faire du beau avec de l'horreur, mais oui, je pense qu'il y a cette idée de que je veux aller montrer des choses qui sont dures à regarder, parce que je pense qu'après on a moins peur, en fait. C'est peut-être comme les contes pour enfants qui sont les plus terrifiants possibles pour nous aider à grandir et à avoir moins peur. Je pense qu'il y a une part de ça dans le... Alors ça peut avoir un lien avec la peur, mais ça peut être aussi pour nous rendre plus responsables du monde dans lequel on vit. Cette phrase de Chesterton, mais qui je crois est apocryphe, qui dit « qu'est-ce qui va mal dans le monde, c'est moi », je la traduis. Et donc je pense qu'il faut voir le monde dans ses recoins les plus sales, en fait. C'est je vois aussi comme ça, disons, d'un point de vue moral, et pas uniquement pour moins avoir peur, mais un point de vue moral de responsabilité individuelle.
Mais c'est d'ailleurs, j'en reviens encore, désolée, mais en même temps, votre livre y invite, en se terminant là-dessus, à la citation que vous faites de l'évangile de Saint Matthieu, parce que la narratrice aperçoit comme ça l'inscription sur un mur, et qui dit, en tout cas, dans la parole du Christ, ce que vous avez fait aux autres, vous l'avez fait à moi. C'est-à-dire que ça inscrit la profonde liberté, responsabilité des uns que nous avons envers les autres, humains.
Oui, bien sûr. Mais ça, alors je réponds pas exactement à votre question, mais c'est quand même une des choses auxquelles je pense beaucoup et qui est sans doute une des idées que j'avais en faisant ce livre, c'était que qu'il fallait il me semble qu'on est quand même à un moment du monde ou un moment historique très, on peut le qualifier d'inquiétant, d'intéressant. Enfin voilà, il se passe des choses. Je pense qu'on est en bon, on va s'accorder là-dessus. Et alors il se passe toujours des choses, mais bon, quand même. Et que comment la littérature doit en parler. Et il me semble que la littérature doit, enfin en tout cas moi j'ai envie, voilà, pas employer des grands mots comme la littérature, mais en tout cas moi j'ai envie d'écrire sur la question, enfin en posant la question du monde, en posant la question du monde aussi d'aujourd'hui, quoi.
À la fin du book club, on cherche la musique dans les textes, et on en a trouvé.
Ah oui,
dans le vôtre.
Trouver.
Ouais, vous allez voir. Mais c'est un mauvais souvenir pour
la
personne. Ouais. Elle raconte qu'elle s'est fait kidnapper dans son pays quand elle avait 20 ans. Pendant 3 heures, elle a entendu la chanson Around the World, Around the World, qui passait en boucle dans la voiture. Elle a dit qu'elle ne supporte plus cette chanson. Le dîner consiste en une soupe de petits pois, du saumon, de la glace, et tout le monde dit que c'est bon. Elle dit que ça l'a changé, le kidnapping, qu'elle a découvert une forme de surpuissance. Elle dit qu'elle a peur maintenant de ce qu'elle pourrait faire aux autres, leur arracher les yeux, les tuer. Elle dit que ça lui poserait aucun problème. Elle rit. Au mur du salon, il y a un tableau avec une phrase en allemand que personne ne comprend puisque personne ne parle allemand. Elle explique que c'est une citation de Vertigo, ou de North by Northwest, je sais plus. Elle raconte qu'elle devait se marier avec celui qui a peint le tableau. Elle raconte qu'elle est allée le chercher à l'aéroport un jour, qu'on lui a dit que l'avion s'était écrasé, que le peintre était mort. Elle sourit. Quand elle prend un acide, elle m'écrit qu'elle est in love with me. Mais sinon, non. Sinon, tout est normal. Merci beaucoup Constance Debré d'avoir été avec nous pour évoquer Protocole, paru aux éditions Flammarion. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulièrement aujourd'hui à Léa Weissgruss, mais aussi Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aleos, Julie Gastal et Alexandre Alaï-Begovitch, avec qui vous poursuivez la conversation sur Protocole et sur tout le reste via le compte Instagram du Book Club.